Le journal de Caroline Toussaint.
Bonjour. Représenter le Jura, les régions moins urbaines, mais aussi travailler à la cohésion sociale. Elisabeth Baumschneider nous révèle quelles sont ses motivations à entrer au Conseil fédéral. La socialiste jurassienne mise sur son parler vrai et sa capacité d'adaptation. La journée mondiale de lutte contre le sida a lieu ce jeudi 1er décembre. Aujourd'hui, les traitements permettent de vivre avec la maladie, mais les préjugés persistent. Le groupe Sida Jura entend déconstruire les tabous et les idées préconçues. Deux frères devant la justice, la cour d'appel pénale du tribunal à Porrentruy juge aujourd'hui deux hommes accusés d'actes d'ordre sexuel sur une enfant. Les juges tentent de déterminer s'il y a eu viol sur mineur. Encore des nuages demain matin, mais des éclaircies seront possibles dans l'après-midi. Les températures oscilleront entre 2 et 4 degrés au meilleur de la journée. Elle est l'outsider qui monte dans la course au Conseil fédéral. La socialiste jurassienne Elisabeth Baumschneider brigue le siège de Simonetta Sommaruga lors de l'élection de mercredi prochain. La franc-montagnarde est conseillère aux États et a été ministre au sein du gouvernement jurassien. Elle a d'ores et déjà réussi l'exploit de figurer sur le ticket socialiste alors que le fauteuil vacant est occupé par une alémanique. La jurassienne n'entend pas s'arrêter en si bon chemin et compte bien créer la surprise en accédant au Conseil fédéral. Elle constitue désormais une réelle menace pour la favorite, la baloise Eva Herzog. Elisabeth Baumschneider a démarré mardi les auditions devant les autres partis, une étape capitale de son périple.
Toutes les étapes sont des vraies épreuves du feu parce que les auditions publiques, elles étaient importantes aussi pour voir si en Suisse alémanique, j'arrive à exprimer mon projet, mon programme. Ensuite, l'étape au niveau du groupe parlementaire était fondamentale. Et puis maintenant, c'est clair que les hearings au niveau des partis politiques, mais aussi d'autres groupes ou autres, sont essentiels pour pouvoir convaincre.
Est-ce qu'on dit ce qu'on pense vraiment ou est-ce qu'on dit ce que les gens veulent bien entendre?
Moi, je pense qu'on a vraiment meilleur temps de dire d'où on vient et comment on va travailler avec les personnes si on a la chance d'être élu. Franchement, il ne faut pas prendre les gens pour des idiotes ou des idiots. Je veux dire, ils peuvent aller vérifier mes votes. Donc, je ne vais pas me transformer dans entre guillemets, les valeurs qui sont défendues par d'autres partis. Par contre, je peux montrer comment un changement de posture peut contribuer à travailler en bonne intelligence avec des majorités qui ne sont pas les miennes, comme je l'ai d'ailleurs toujours fait au gouvernement jurassien.
Dans un premier temps, vous étiez candidate à la candidature. Il s'agissait de passer le cap du groupe pour sur le ticket. Aujourd'hui, vous êtes carrément candidate au Conseil fédéral. C'est quoi votre motivation profonde pour aller au Conseil fédéral?
C'est carrément de représenter non seulement le canton du Jura, mais les régions moins urbaines, les régions rurales, mais comme je dis, à la ruralité moderne. Et c'est pas juste des slogans. Je suis sûre que quand je vois ce qu'on vit aux Franches-Montagnes, qu'on peut vraiment conjuguer les deux. Et puis aussi, cette Suisse que je sais tellement prospère, mais qui doit prendre en considération les besoins des personnes en plus grande difficulté. Donc la cohésion sociale, c'est quelque chose qui me taraude au corps, si j'ose dire comme ça. Et puis, bien sûr, toute la question du pouvoir d'achat aujourd'hui, quand on sait les augmentations de prix maladie, quand on sait les augmentations des frais de l'énergie ou autres, on ne peut pas laisser la population sans réponse. Et puis d'ailleurs, on a montré qu'on savait répondre au niveau de la pandémie. On a eu tout un dispositif qui a fait que l'économie ne s'est pas arrêtée.
Dans le cadre de nos présentations des quatre candidats au Conseil fédéral, nous donnerons la parole à la socialiste baloise Eva Herzog dans le journal de 18h. Les autres entretiens sont à découvrir sur rfj.ch. Et Elisabeth Baumschneider pourra compter sur le soutien du Parti socialiste jurassien mercredi lors des élections au Conseil fédéral. Le PSJ indique que ses membres et sympathisants vont se retrouver vers 9h sur la place fédérale à Berne. Le restaurant du Bœuf à Delémont organise aussi une projection de la matinée d'élections. Le National a adopté ce jeudi le budget 2023 par 137 voix contre 49. Le budget gouvernemental prévoyait 81 milliards de francs de recettes, 86 milliards de dépenses. Les députés ont ajouté 15 millions de dépenses supplémentaires, notamment pour la préservation des races indigènes d'animaux de rente. 7,5 milliards de francs et 15 biens immobiliers, c'est le montant des avoirs russes gelés en Suisse depuis l'invasion de l'Ukraine. Le secrétariat d'État à l'économie a fait le point de la situation ce matin. Les chiffres ont peu évolué ces derniers mois, notamment parce que la liste des personnes et des entreprises russes sanctionnées ne s'est pas allongée. Depuis le début de l'application des sanctions, les partis de gauche, mais aussi des ambassadeurs et des ONG se montrent critiques. Ils estiment que la Confédération n'en fait pas assez pour trouver et bloquer les avoirs russes. La réaction d'Erwin Bolliger, représentant du secrétariat d'État à l'économie.
Notre estimation est qu'on a bien travaillé avec des pays de l'Union européenne, avec la Grande-Bretagne. On est en échange étroit. On a des consultations aussi avec la Commission européenne. Notre coopération est appréciée et on reçoit toujours des réactions que ça fonctionne assez bien. on ne peut pas vraiment comparer les chiffres parce que chaque pays a un autre, dans une autre situation. Il y a peut-être plus de Russes qui sont dans un pays que dans un autre. Alors, avec les comparaisons, il faut être prudent. Mais je pense quand même qu'on était toujours parmi les premiers qui ont annoncé les montants gelés, mais aussi avec ces notifications des comptes bancaires, des personnes non sanctionnées. On était les premiers à publier ça. Alors, je pense quand même qu'on le fait le travail bien.
Est-ce que vous devriez faire plus, essayer d'avoir plus de ressources pour pouvoir trouver plus d'avoirs russes?
Non, je pense que ce n'est pas une question des ressources. On a reçu des ressources. On a actuellement une bonne vingtaine de collaborateurs et collaboratrices dans ce secteur. On est aussi en train de baisser les quelques milliers de demandes qu'on a reçues depuis le début de cette guerre. Avec ce renforcement des ressources, on est vraiment capable de baisser ces demandes et aussi de faire ce qui est nécessaire.
Ce lundi 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Voilà désormais plus de 40 ans que la maladie a été découverte. Si les traitements permettent aujourd'hui de vivre avec le VIH, plusieurs fausses informations circulent encore. Dans notre région, le groupe Sida Jura propose plusieurs manières de sensibiliser la population, notamment au travers de témoignages. Et c'est primordial à en croire Sandrine Chapat, membre du groupe et elle-même séropositive.
Quand on va trouver les jeunes, ils nous posent des questions qu'on pensait qu'ils n'étaient plus à poser. Et si, vraiment, ils ont des infos, mais ils n'ont pas toujours les bonnes. Et c'est important d'avoir cette information juste. Donc c'est vraiment important de dire que maintenant, une personne traitée n'est plus contagieuse. Le truc que je voudrais vraiment relever, surtout aujourd'hui, pour les personnes séropositives, je parle en leur nom, que vraiment, on est indétectable et puis on ne peut plus transmettre la maladie. Et nous, ce qui nous travaille vraiment, c'est la peur du rejet. Avant, on nous accompagnait à la mort, mais maintenant, nous accompagne à la vie, malgré les traitements qui sont très très difficiles, on est là et puis on vit aussi, nous, là, et c'est vraiment comme une maladie standard chronique, maintenant, avec les médicaments.
Vous parlez de discrimination, c'est un phénomène qu'on avait beaucoup entendu par le passé, il est encore réel aujourd'hui, au quotidien?
Oui, il est encore réel pour nous, personnes séropositives. C'est vrai qu'il y a eu 52 plaintes en 2021 pour la Suisse, que les gens ont pu se plaindre, parce qu'il y a toutes les autres qui ont discrimination au niveau des assurances, au niveau des soins hospitaliers, etc. Donc ça ne devrait plus arriver maintenant, 40 ans après.
Sandrine Chapat était l'invitée de Michel Léoni dans la matinale. Entretien complet sur rfj.ch. Deux frères comparaissent depuis ce jeudi devant la cour d'appel pénale du tribunal de Porrentruy, tous deux condamnés à 7 ans de prison en première instance en mai dernier pour actes d'ordre sexuel et viol sur enfant. Les faits remontrés entre 2011 et 2015 aux Franches-Montagnes, les deux prévenus reconnaissent uniquement des attouchements mais aucune pénétration. Tout l'enjeu de ce procès est donc de définir s'il y a eu viol ou non sur une enfant mineure. Jérémy Pignard.
D'emblée, le juge ébranle l'un des deux frères en exhumant une conversation électronique. « Cela fait combien de temps que tu n'as plus eu de rapport sexuel ?» demande par message l'un des prévenus à la plaignante. Réponse « La dernière fois, c'était en 2013, avec toi et ton frère. Tu te rappelles ?»« Oui, » répond-il. Réponse qu'il dit aujourd'hui avoir donnée sans réfléchir. « Et vous pensez sincèrement que l'on va avaler une couleuvre pareille ?» s'insurge le juge. Les deux frères tentent également de contester les dates et donc leur âge au moment des faits, soit selon eux, avant leur majorité. L'un d'eux dit avoir commis des attouchements uniquement à 15 ans, pas après. Reconnaissant s'être emmêlé les pinceaux dans les dates devant la police, le juge rappelle alors qu'il avait admis les dates contenues dans l'acte d'accusation, plaçant les faits avant sa majorité. Un calendrier qui remonte à une dizaine d'années, confus également pour la plaignante. Elle affirme désormais que cela s'est arrêté à ses 12 ans et non plus 11. L'avocat de la défense saute dans la brèche, la scène de question. Elle ne se démonte pas. On s'en fout de la date, ils m'ont violée pendant des années, pose la jeune femme, confiant qu'elle garde ça malgré elle. Qu'on le veuille ou non, ça revient. Ça brise une vie.
Les plaidoiries des avocats ont débuté en fin de matinée. La défense pointe notamment le discours lacunaire de la plaignante âgée désormais de 18 ans. Les patoisans Teignon remontent sur scène pour jazzer. 13 enfants et une trentaine d'adultes se produisent de vendredi à dimanche à la Maison des œuvres à Lajoux. Au menu, les chants de la chorale intercalés entre deux pièces de théâtre, celle des petits et celle des grands. Cette nouvelle représentation intervient 2 ans et demi. Après la dernière, une pause liée au Covid qui a causé quelques craintes pour la responsable du théâtre des enfants. Agnès Surdé.
Évidemment, comme beaucoup de sociétés, on était inquiets parce qu'on a vu autour de nous que, ma foi, des sociétés qui ont des membres assez âgés ont vu leurs membres diminuer. Donc, on s'est dit, va-t-on trouver assez de monde ? Eh bien oui, on a trouvé du monde, des acteurs, la chorale a trouvé un directeur Et puis, les enfants vont se chamailler dans une pièce de théâtre.
L'important, c'est de trouver une relève. Est-ce que remonter sur scène, comme ce sera le cas ce week-end, c'est un moyen aussi de trouver de nouveaux adeptes?
Je pense que oui. Par exemple, les enfants qui suivent le cours facultatif de patois ou brûleux, c'est sûr que participer à un théâtre sur scène, ça les motive beaucoup. Et je vois cette année qu'ils sont intéressés, ils participent bien, ils ont donné des idées extraordinaires pour cette pièce de théâtre.
Agnès Surdet répondait à Nicolas Meusy. Le théâtre des patois Antaignon, c'est donc de vendredi à dimanche à l'Ajoux. Pour les personnes qui ne comprennent pas le patois, un résumé des pièces en français sera distribué avant les représentations.
Vous écoutez RFJ, les 12h26.
Sport. Yann Sommer et Nico Elvedi seront-ils sur le terrain demain soir face à la Serbie? Le gardien et défenseur de l'équipe de Suisse de football ont été victimes d'un refroidissement et ne se sont pas entraînés ce matin à la veille du match décisif dans le groupe G de la Coupe du Monde au Qatar. Jerdan Shaqiri et Noah Okafor étaient en revanche présents. Les deux attaquants devraient être en mesure de tenir leur place. Aujourd'hui, trois grandes d'Europe, à savoir l'Allemagne, la Belgique et la Croatie, sont en danger. La situation dans le groupe F est très indécise. Avant cette troisième et dernière journée de la phase de poule, trois équipes sont en lice pour deux places en huitième de finale. Le Maroc semble le mieux placé avec ses quatre points avant d'affronter le Canada qui est déjà éliminé. La Croatie a aussi son destin en main avec un point de plus que la Belgique. Début des matchs à 16h. Dès 20h, tout est possible dans le groupe E où trois équipes peuvent encore finir première. D'abord l'Espagne et le Japon qui seront face à face, mais aussi le Costa Rica s'il bat l'Allemagne et que dans le même temps les Espagnols et les Japonais font match nul. La Mannschaft doit-elle gagner à tout prix pour se qualifier? Retrouvez toute l'actualité autour de ce mondial dans notre journal de la Coupe du Monde à 18h30 et tout au long de la journée sur rfj.ch. Les deux roues seront de sortie autour du château de Porrentruy. Le cyclo-cross des Princes-Évêques a lieu samedi. Le parcours principal se compose d'une boucle de 2750 mètres à parcourir durant 50 minutes pour les hommes, 35 pour les femmes. Cette avant-dernière manche de l'Omnium Roman est organisé par le groupe sportif Ajoie. Depuis bientôt 3 ans, celui-ci est présidé pour la première fois par une femme, Stéphanie Schenk. Elle a succédé à Christophe Rera qui a occupé la fonction pendant 10 ans. C'est sa passion pour le vélo qui a amené cette infirmière d'origine vaudoise à ce poste.
Moi, j'avais fait pendant 5 ans, de 20 à 25 ans à peu près, où je faisais du VTT. Et puis après, en ayant eu mes enfants, j'ai un peu arrêté, puis j'ai repris. Avec mon fils, qui avait une dizaine d'années, je pense que ça fait vers 2012 à peu près que j'ai commencé à reprendre le vélo, on va dire ça comme ça.
Et puis pourquoi pratiquer ce sport au sein d'un groupe sportif?
Je trouve que c'est plus sympa de faire un sport avec plusieurs personnes, quoi. Je ne suis pas tellement quelqu'un qui est toute seule dans mon coin. J'aime bien être à plusieurs. Et puis voilà, c'était l'occasion de rouler en groupe, quoi.
Quelle est votre vision pour le GS Ajoie? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter?
Déjà de la stabilité. Maintenant, après ce Covid, que les activités reprennent, quoi. Parce qu'il y a eu vraiment une grosse baisse. Et puis, on voit que les gens ont pris l'habitude de faire des activités seuls ou en petits groupes. Donc, plutôt ramener les gens à faire des activités avec des groupes un peu plus grands.
La relève, c'est aussi un axe sur lequel vous avez envie de travailler?
Oui, justement, il y a Richard Fleury qui a repris l'école de cyclisme et puis qui est tout motivé pour relancer l'activité au sein du GSA parce que c'est plutôt en baisse ces dernières années.
Des propos recueillis par Émilie Moumentaler. Les premiers départs de ce cyclo-cross des Princes-Évêques seront donnés à 10h30 samedi. Un nouvel hiver en perspective pour le giron jurassien des sports de neige. La relève de la région s'apprête à entamer la saison des compétitions. Cette saison, ils sont 11 jeunes en ski alpin, 5 jeunes en ski nordique à bénéficier de l'accompagnement et de la structure d'entraînement du Giron. Le secteur nordique bénéficiera de l'expérience d'un nouvel entraîneur avec l'engagement du français Alexis Jeannereau. Par ailleurs, Didier Cuche accède à la présidence. Le Neuchâtelois est l'exemple même qu'accéder au plus haut niveau en faisant ses armes dans l'arc jurassien est possible, même si l'enneigement se fait de plus en plus rare, Didier Cuche.
C'est ce qui a été mis en place depuis maintenant une dizaine d'années avec ce centre régional de performance, avec toute la coordination avec les écoles, des congés qui sont accordés. C'est sûr que le niveau d'école doit être ce qu'il doit être pour qu'on puisse avoir les congés, et ça les jeunes en sont conscients. Mais on arrive à compenser ces périodes où on ne peut pas skier ici avec cette structure qui se déplace. ce qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire avant. Et ce qui fait qu'on manque pas forcément de jours par rapport aux autres associations. L'été, les camps d'entraînement se font de toute façon sur les glaciers, donc là on n'est pas forcément dépendant d'un enneigement directement. Mais c'est sûr que l'hiver, une fois que les courses se font, elles se font un peu partout, pas seulement ici dans le Jura. Donc les jeunes skient quand même, se mesurent quand même aux autres jeunes de l'arc roman voire national. Pour les phases d'entraînement, c'est sûr qu'on doit un peu se déplacer. Mais c'est grâce à cette coordination avec les écoles et tout le staff qu'on a au sein du Giron.
C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente journée.